Jean-François Bourgeois et moi tenons d'abord à vous remercier d'être ici ce matin à l'ouverture de ces journées d'études des revues culturelles du Québec. J'allais oser à ces premières journées d'études dans l'espoir qu'il y en ait d'autres. Ce sera à voir. D'entrée de jeu, permettez que nous prenions aussi le temps de remercier chaleureusement nos partenaires sans qui cet événement inédit n'aurait tout simplement pu avoir lieu. Donc, nous voulons d'abord remercier Bibliothèque et Archives nationales du Québec qui nous accueille ici aujourd'hui, et tout particulièrement Sophie Montreuil, directrice à la direction de la recherche et de l'édition, qui a dès le départ cru à ce projet. Nos remerciements vont également au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, qui nous a offert son soutien logistique et financier essentiel à la réalisation de ces journées. Toute notre reconnaissance va donc à Élisabeth Nardou-Lafarge, directrice du CRILC, pour son soutien dans le projet. Manon Plante, dans un premier temps, puis Marie-Claude Primeau ont, quant à elles, assumé avec générosité et rigueur la coordination des préparatifs de ces journées d'études et leur organisation. Donc, nous les remercions chaleureusement. Nous voulons aussi remercier la Société de développement des périodiques culturels québécois qui fête cette année son 30e anniversaire pour son aide financière dans la réalisation de ces journées. Jean-François et moi tenons également à souligner le soutien exemplaire du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts de Montréal et du Conseil des arts et des lettres du Québec dans cette aventure. Mesdames Diane Miljour, Réjeanne Bouger et Lorraine Tardif ont, dès le départ, admirablement porté et défendu notre projet auprès de leurs conseils respectifs. Nous leur en sommes des plus reconnaissants et nous tenions à saluer leur implication. Avant de céder la parole à mon collègue Jean-François Bourgeois, donc, j'aimerais auparavant inviter Daniel Cernine, secrétaire trésorier de la SODEP, ainsi qu'Élisabeth Nardou-Lafarge, directrice du CRILC, et Sophie Montreuil, directrice à la direction de la recherche et de l'édition de BANQ, à dire quelques mots de bienvenue. Donc, Daniel.
Depuis 30 ans, la Société de développement des périodiques culturels québécois poursuit son objectif de travailler activement au rayonnement des revues culturelles. À titre d'organisme de soutien et de représentation, la SODEP a su relever le défi de réunir des membres dont le dénominateur commun est d'éditer des revues qui ont à cœur la culture. D'abord outil de promotion collective, elle s'est employée durant toutes ces années à développer une vie associative en créant des ponts entre les membres, les disciplines représentées, ainsi qu'avec diverses institutions dont les bibliothèques publiques et les établissements d'enseignement. Née en 1978 sous le nom d'Association des éditeurs de périodiques culturels québécois, la SODEP regroupe actuellement 45 éditeurs de revues travaillant dans divers secteurs artistiques, littéraires et socioculturels. Elle est leur porte-parole auprès des gouvernements, des médias et des autres regroupements professionnels. Elle s'emploie également à favoriser les échanges internationaux. Parmi les services offerts, mentionnons la participation au Salon du livre se tenant au Québec et quelques-uns hors du Québec, ainsi qu'au Salon de la revue de Paris. La SODEP est heureuse aujourd'hui de s'associer au CRILC, au magazine Spirale, au cahier littéraire Contre-jour et à leurs partenaires pour vous présenter ces journées d'études des revues culturelles. Alors, bon colloque.
Merci Daniel. Élisabeth.
Bonjour à tous. Le CRILC s'associe naturellement à cette journée d'études, puisque les revues culturelles et les questions qu'elles soulèvent cristallisent en quelque sorte notre objet dans la précarité du présent, dans l'interdisciplinarité en train de se faire, dans le champ ou les champs qu'elles ouvrent dans l'espace public et dans les différences parfois très ténues entre les revues culturelles et les revues universitaires. Il me semble que la recherche a besoin des revues culturelles, c'est une évidence, que les deux doivent être non seulement en dialogue, mais en relais, le bâton passant tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. Nous sommes ravis d'être là et je vous souhaite d'excellentes journées de discussion. Merci.
Merci Élisabeth. Sophie.
La défilade. Bonjour à tous. Il me fait plaisir, donc, à titre de représentante officielle des Bibliothèques et Archives nationales du Québec lors de ces journées d'études des revues culturelles du Québec, de vous accueillir au Centre d'archives de Montréal, l'un des 11 édifices de diffusion de l'institution, certainement, je l'avoue bien honnêtement, l'un des plus beaux et à tout le moins l'un des plus accueillants pour tenir le genre d'événement qui nous réunit aujourd'hui. Au cours des deux prochains jours, vous aurez, je l'espère, l'occasion d'explorer quelque peu ce magnifique édifice et de découvrir son histoire grâce notamment à un itinéraire jalonné de panneaux explicatifs distribués un peu partout dans les aires publiques de l'édifice. Édifice où, rappelons-le, l'École des hautes études commerciales de Montréal a été créée au début du 20e siècle. Si vous le permettez, je vais profiter des quelques minutes qui me sont accordées pour vous présenter brièvement l'institution donc, qui vous accueille en ces lieux pour ces deux prochaines journées. Telle qu'elle existe maintenant, Bibliothèque et Archives nationales est une toute jeune institution. En janvier 2006, donc il y a bientôt à peine 3 ans, donc les Archives nationales du Québec, qui portaient ce nom depuis 1970, mais dont la création remonte à 1920, et la Bibliothèque nationale du Québec, instaurée en 1967, fusionnaient donc en janvier 2006 pour former une nouvelle institution gardienne du patrimoine documentaire québécois, publié et archivistique. À cette mission de conservation du patrimoine propre à une institution nationale s'ajoute celle d'être aussi une bibliothèque publique, puisque nous diffusons dans un édifice situé à quelques coins de rue d'ici la Grande Bibliothèque, une collection de prêts offerte à l'ensemble de la population québécoise sur place et à distance. En tant que bibliothèque nationale, en tant qu'archive nationale, en tant que bibliothèque publique, BANQ veille à valoriser la lecture, la recherche et l'enrichissement des connaissances, à promouvoir l'édition québécoise, à renforcer la coopération et les échanges entre les bibliothèques et les milieux archivistiques et à stimuler le développement d'une bibliothèque virtuelle québécoise, commune et ouverte à tous. BANQ a également pour mission d'encadrer, de soutenir et de conseiller les organismes publics en matière de gestion de leurs documents, d'assurer la conservation d'archives publiques, par exemple civiles, judiciaires, gouvernementales, d'en faciliter l'accès et d'en favoriser la diffusion. En plus de remplir ses mandats bibliothéconomiques et archivistiques, BANQ se veut une institution culturelle qui présente des expositions sur ses fonds et ses collections patrimoniales, qui organise et qui conçoit des spectacles et diverses activités d'animation offertes gratuitement. Et BANQ se veut aussi une institution dotée d'une mission scientifique. BANQ, en effet, croit fermement qu'elle peut jouer un rôle important dans l'avancement des connaissances sur le Québec, sa culture, son histoire, et qu'elle peut mener, conjointement avec les milieux universitaires et avec les milieux culturels, une réflexion ouverte sur ce que nous sommes comme société et sur ce que nous voulons devenir. C'est à ce titre, entre autres, que nous avons voulu être partenaires de ces journées d'études. C'est à la direction de la recherche et de l'édition, donc l'unité que je dirige, créée en 2002, qu'a été confiée la responsabilité de développer la mission scientifique de l'institution. En travaillant étroitement avec la communauté universitaire, avec des groupes de recherche tels le CRILC, à plusieurs reprises déjà, avec des acteurs des milieux culturels, nous veillons à toujours mieux faire connaître les collections de l'institution et à montrer comment celles-ci sont riches de matériaux utiles à la recherche et à l'exercice de réflexion critique, propre à l'ensemble des sciences humaines et sociales. Assumant la rédaction en chef des deux revues produites par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la revue À rayons ouverts et une nouvelle revue Publication savante à paraître au printemps, je parlerai de ces deux revues demain, la direction de la recherche et de l'édition exerce en outre au quotidien des tâches que bon nombre d'entre vous, j'en suis certaine, ne connaissez. C'est aussi à ce titre que j'ai moi-même voulu, en tant que directrice de la recherche et de l'édition, mais surtout en tant que rédactrice en chef, être partie intégrante de ces journées d'études, sachant que j'y trouverais une trop rare occasion de parler de mes revues, avouons-le, mais sachant surtout que j'aurais en fait le privilège d'assister à une rencontre inédite entre praticiens des revues culturelles. Compte tenu du grand nombre de questions sous-jacentes à nos échanges, je suis certaine que Jean-François nous en parlera, je doute que nous ayons collectivement réponse à tout. Qu'à cela ne tienne, le fait d'avoir réussi à nous réunir et à nous sortir de notre isolement, même brièvement, ne peut que donner lieu à un exercice fécond. Je vous remercie et nous souhaite des discussions animées et passionnantes.
Merci, Sophie Montreuil. Donc, puisque nous y sommes, posons la question, quel bilan des revues déposées aujourd'hui? Existe-t-il vraiment une scène commune de la revue? Est-ce que chaque magazine est condamné à inventer sa scène provisoire où se rencontreront rédacteurs et lecteurs, sans pour autant que le lieu privilégié de cette rencontre ait quoi que ce soit de commun avec celui d'autres revues? Quel avenir, en somme, pour le milieu des revues culturelles au Québec. Ce sont là, vous le savez, certaines des questions qui seront débattues au cours des deux prochains jours. C'est sur la base de ces interrogations que nous souhaitions, en quelque sorte, nous voir tous comparaître, histoire de retirer à la revue son caractère d'évidence. Vous aurez compris donc qu'il s'agit évidemment de dépasser le simple constat du foisonnement des revues dont on a beaucoup parlé dans le cahier spécial que consacrait Le Devoir à la scène des magazines culturels ce samedi et dimanche dernier. C'est ce que nous voudrions rappeler ce matin. Et je vais céder la parole à Jean-François à cette fin.
Alors, bonjour. Donc, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Patrick sur les questions qui ont donné lieu à ce colloque-ci, qui sont par ailleurs à l'intérieur des dépliants qu'on a inclus dans la pochette. Par contre, faire un court texte qui prolonge un peu les questions, mais qui sera fort bref, rassurez-vous, la qualité d'un autre est d'être effacé, donc ça ne sera pas très long. Mais quand même, bon, dans bien trop de livres, lire et publier à l'ère de l'abondance, l'écrivain mexicain Gabriel Zaid cite en exemple le cas de Plowshares, l'une des plus prestigieuses revues culturelles américaines, qui, je cite, « reçoit 16 000 textes par an d'environ 6 000 personnes, dont à peine 200 sont des abonnés ». Fin de citation. Au-delà de l'expérience du sublime dans laquelle nous plonge cet incommensurable excès de l'offre sur la demande ou du bavardage sur l'écoute, ce cas radicalise surtout par son ampleur une expérience de dissymétrie commune à laquelle quiconque œuvre au sein d'une revue culturelle finit par s'habituer. L'affect le plus banal qui éveille l'épiphanie de ce nombre exemplaire avec son déséquilibre affolant prend la plupart du temps la forme d'une déploration unanime parmi les acteurs de ce milieu, comme si, au-delà de leur mission propre au sein de leur discipline, les revues avaient surtout pour aujourd'hui pour une vocation supérieure de rétablir la balance en constituant autant d'éléments d'un lobby réclamant, comme n'importe quel autre, plus d'argent, plus de lecteurs, plus de visibilité médiatique, etc. Pourtant, à y regarder plus près, on constate que ce sentiment de précarité culturelle et cette persistance à vouloir régulièrement sonner l'alarme va de pair avec une abondance, voire un confort matériel, peut-être sans précédent dans l'histoire de ce médium. Pire encore, on constate avec un certain malaise que ce sentiment de fragilité ne naît peut-être pas malgré la grande multiplicité des lieux de publication, mais peut-être en raison de cette pléthore qui se renverse si rapidement en scène de monologues isolés, avec la crainte que la pièce qu'on y joue, remplie de rôles principaux ou de figurants, qui remue un peu au même, soit représentée devant une salle presque vide, où seuls les acteurs vont par moments s'asseoir pour s'écouter. Si l'efficacité conjuratoire de ces diagnostics de désolation est douteuse, il se répète depuis au moins 15 ans au point de s'être presque dégradé en ritournelle, la posture inverse de qui fait une revue comme si cela allait de soi l'est peut-être tout autant, car rien ou presque ne va de soi dans une revue culturelle. Ni son espace propre de pénombre, destiné à osciller entre celui du journal et celui du livre, donc survivre à l'obsolescence programmée des manchettes et souvent à tester un livre en devenir par la mise au jour d'un de ses échantillons, sous forme d'essais, de nouvelles, de poèmes, ni son support, naguère réduit au petit livre de dimensions variables, maintenant de plus en plus ouvert à la page web et sa configuration autonome, ni sa temporalité historique, tout aussi difficile à définir, pardon, puisque la revue sollicite la patience méditative tout autant que l'urgence d'intervention, la pensée contemplative au repos, tout autant que celle qui stigmatise l'inertie des idées somnolentes. Ni même son nom, enfin, créé faute de mieux, afin de distinguer les revues dites universitaires, d'autres organes de publication qui tendent alors à avoir, en partage, le domaine excessif, par excellence, de la pensée. Excessif, non pas parce qu'on y cultive l'exagération ou le manque de mesure, mais parce que revue culturelle est surtout le nom d'un espace en excès, en surcroît, où viennent souvent échouer toutes les productions de la pensée que la taxinomie des espaces actuels ne saurait intégrer. Mais c'est peut-être là où rien ne va de soi, où rien ne peut aller de soi sans malentendu ou fausse certitude, que peuvent s'inventer à même ce déficit d'évidence les possibles communs auxquels d'autres espaces plus contraints s'opposent avec plus d'acharnement. Malgré les rémunérations minimales qu'assure le système de subvention éditoriale, chacun sait que la revue culturelle porte en elle une mémoire et souvent même une pratique fondamentale de la gratuité qui n'a rien de conceptuel et prend souvent la forme d'un pari pascalien. Détournant à nos propres fins une formule célèbre du psychanalyste Jacques Lacan, nous pourrions affirmer que participer à une revue culturelle, c'est prendre du temps qu'on n'a pas pour le donner à qui n'en veut pas. La plupart du temps, chaque heure qu'on lui consacre est volée à l'horaire tyrannique de celui qui la fait comme de celui qui la consomme, à l'image de la gratuité elle-même, toujours excessive au sein d'un système qui trouve en elle une résistance autrement plus forte que dans plusieurs des postures qui voudraient incarner ce mot. On le sait, ce système est le même qui tend à évaluer l'incité d'une entreprise en fonction de ses performances statistiques, celle-là même qui donne le vertige à la lecture du beau livre de Zaïd, et sont devenus des indices d'une santé bien aléatoire dans l'évaluation de ce qu'est une vigueur culturelle. C'est pourquoi, sans doute, on serait mieux commencer ces journées qu'en laissant derrière nous le règne de la statistique, ses chiffres en apparence implacables, ses fausses consécrations, pour tenter d'esquisser entre nous ce dont on discute actuellement dans les sommets politiques de ce monde, une autre économie de la pensée, où les notions d'impact, de rendement, de profit, de productivité seraient propulsées dans un tout autre espace que celui où on a l'habitude de les employer. Je vous remercie et bonne journée.
Merci. Donc, avant de céder à nouveau la parole à Élisabeth Nardou-Lafarge, qui présidera la première séance, j'aimerais simplement rappeler en terminant la forme que prendront ces journées d'études. Nous tenions à laisser une certaine liberté aux participants sans leur fixer de cadre autre que celui de limiter leur intervention à une quinzaine de minutes. Certains seront donc sans doute plus brefs que d'autres, mais ce qui nous importait, c'était surtout de ménager un temps de discussion au cours duquel les intervenants pourront débattre de la question ou du thème de la séance, mais également le public, quand le public va se pointer, que nous encourageons vivement à participer et à intervenir. Un micro est d'ailleurs mis à la disposition de la salle, donc ne pas hésiter à le réclamer. Sur ce, Jean-François et moi vous remercions à nouveau d'être ici et vous souhaitons de bonnes et véritables journées d'études. Merci. La discussion est la question de la séance.